Ce soir, poursuite de notre exploration du psychédélisme contemporain. On va partir du côté fantaisiste, voire franchement farfelu du rêve. Et promis, ça va être bizarre. une sorte de country blues psychédélique et champêtre. Il n'y a peut-être qu'un seul groupe au monde capable de faire ça, en tout cas aujourd'hui. Je vous en avais parlé au printemps de l'année dernière à propos de la parution de non pas son dernier mais son avant-dernier album, puisqu'il y en a eu un autre depuis. La chanson s'appelait Fishing for Fishes, tout comme l'album. Alors le nom du groupe, un indice, il est australien, comme Tame Impala et Pond, qu'on a entendu hier. Il faut dire, l'Australie c'est une grande terre du psychédélisme, il y a de grands espaces inhabités, le ciel est vaste, la nature mystérieuse. Toutes les conditions se réunissent. Ce groupe vient de Melbourne, c'est la grande ville côtière du sud-est de ce grand pays. Oui, je vais finir par vous dire quel est le nom du groupe. C'est King Gizzard and the Lizard Wizard. Le roi gésier et le sorcier lézard. Voilà, c'est pas un duo, c'est un groupe qui existe depuis 10 ans, qui réunit autour d'un musicien débordant de passion et d'énergie, Stu McKenzie, une bande de copains. Ils sont 7 en tout, et on peut dire qu'ils incarnent à eux tout seuls une sorte d'encyclopédie du rock psychédélique. King Gizzard and the Lizard Wizard, c'est, si vous préférez, comme une compilation psychédélique qui unirait toutes les branches de cette musique au fond indéfinissable et qui peut être tout et son contraire, parfois même, ce qui est très psychédélique d'ailleurs, au sein d'un seul et même morceau. Et ça arrive d'ailleurs dans le cas de pas mal de chansons de King Gizzard and the Lizard Wizard qui changent de style ou qui juxtapose des au moins 2 ou 3 styles dans une même chanson. La preuve donc que ce groupe est d'une incroyable vitalité, c'est que en août dernier, 4 mois seulement après la publication de l'album Fishing for Fishes, eh bien King Gizzard and the Lizard Wizard a publié un album intitulé Infest the Rat's Nest, dominé par une espèce de, comment décrire ça, une espèce de hard rock préhistorique. Alors la source de ce groupe, je vous disais, il y a un musicien du nom de Stu McKenzie. Il joue à la source d'un instrument inhabituel dans le rock, la flûte traversière. Remarquez, il y avait bien Ian Anderson de Jethro Tull, qui était une des plus grosses stars du début des années 70. Il joue aussi du sitar indien. Alors ça, c'est un des instruments les plus durs au monde à maîtriser. Et de la zurna. Vous savez pas ce que c'est? Comment? Eh bien, c'est une sorte de hautbois du Moyen-Orient. Voilà. Le groupe est composé donc de 7 membres, dont Stu McKenzie. Il peut combiner 3 guitares, 2 batteries. Et, ils ont pas mal recouru à ça. Un térémine, vous savez, c'est le tout premier instrument de l'histoire de la musique électronique. Le principe, c'est un petit boîtier électronique équipé de 2 antennes. Ça crée un champ électromagnétique et puis on produit des sons et on les module en bougeant les mains à l'intérieur de ce champ, à légère distance de l'instrument, mais enfin sans toucher les antennes. Voilà. Un des exemples les plus connus de l'utilisation du térémine, bien c'est la fin de la chanson Good Vibrations des Beach Boys en 66. Grand sommet du psychédélisme, on l'entendra demain d'ailleurs. Après-demain. Ah bon, merci Stéphane. Autre chose à propos de King Gizzard and the Lizard Wizard, inspiré par le saz. Vous savez, c'est une sorte, vous ne savez pas, c'est une sorte de lutte turque. Eh bien, McKenzie et ses camarades ont conçu et fabriqué des guitares dont les frettes permettent de jouer des quarts de ton. Vous savez, ce sont ces notes que l'oreille occidentale perçoit comme fausses et dissonantes, mais qui sont acceptées et largement utilisées dans les musiques du Moyen-Orient et d'Orient. Voilà, très actif, très productif. King Gizzard and the Lizard Wizard a donné plus de 500 concerts depuis ses débuts en 2010 et a publié 15 albums en 7 ans, dont 5 pour la seule année 2017. Et c'est pas fini, Stu McKenzie et ses camarades veulent apprendre d'autres instruments, explorer d'autres horizons. Voilà, l'histoire n'est pas terminée. Autre exemple d'un groupe qui a su fédérer autour de lui, tout autour du monde, un réseau d'admirateurs enchantés, ce sont les Californiens des Alalas. Alors, ça s'écrit comme Allah, puis Laz. D'ailleurs, le fait que ça s'appelle Allah quelque chose, ça a suscité quelques ennuis. Enfin voilà, ils s'en sont expliqués, ils ont essayé de calmer et les exciter, mais c'est parfois difficile. Bon, c'est un peu le cliché qu'on associe à la région de Los Angeles, des surfeurs, hein, pas dans le sens de gars super baraqués, mais enfin juste des garçons qui adorent surfer et qui aussi sont des passionnés d'enregistrement obscur, alors psychédélique, mais au sens très large du terme. D'ailleurs, 3 membres sur 4, c'est beaucoup, des Alalas ont de fait travaillé à l'extraordinaire magasin disque Amoeba Music à Los Angeles sur Sunset Boulevard à Hollywood. Un immense magasin disque tenu par des passionnés. On peut y passer, comme je l'ai fait, des heures à fouiner parmi les CD et des vinyles de tous les styles possibles et imaginables. Alors, dès l'apparition du groupe en 2012, on a gentiment reproché aux Alalas d'être quoi de sympathique, nostalgique, recyclant les sons du passé, en particulier d'un groupe comme les Byrds. On leur a beaucoup reproché, entre guillemets, ça. En fait, c'est mal les écouter. Alors, sans doute, ils ont pris pour modèle cette espèce de légèreté mélancolique propre à une espèce de folk rock, country rock d'une époque reculée, époque du psychédélisme, c'est vrai, mais c'est vraiment les limiter très injustement. En fait, ces musiciens sont capables de se passionner, je sais pas, pour une compilation de surf rock cambodgien comme pour un album du groupe allemand Popol Vuh, un des grands noms de la période dite progressive au début des années 70. Et quand on écoute leur nouvel album, aux Alalas, qui s'appelle simplement Laz, eh bien on est frappé par une étonnante diversité. Il y a une chanson funky, on dirait du J.J. Cale, il y a des motifs d'arpèges de guitare qui font penser à ce qu'on appelle, même si c'est abusif, le blues du désert malien, entre Ali Farka Touré et Tina Riwen. Il y a une chanson interprétée en portugais, hein, comme si la country psychédélique avait atterri au Brésil. Enfin, en tout cas, il y a un équilibre très heureux, très délicat entre les sons. En tout cas, les musiciens des Alalas sont vraiment des artistes, comme l'illustre ce très joli titre Paul Onion, Oignon polaire, qui semble, c'est vrai, sortir d'une compilation d'obscures pépites psychédéliques oubliées. Et je ne sais pas comment ils ont fait ça, ça a ce charme désuet. Puis en même temps, c'est un rêve d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est un accordéon, un harmonica qu'on entend au fond, mais ça participe du charme. Les Alalas, ce soir, dans Very Good Trip, sur France Inter.
With no one aware.
vers l'autre côté du Pacifique. Le vaisseau du psychédélisme a vogué et est arrivé il y a bien longtemps déjà au Japon, où il s'est particulièrement bien acclimaté. Comme en témoigne ce titre, Nazo Nazo, extrait de Masana Temples, le dernier album d'un jeune groupe de Tokyo qui s'appelle Kikagaku Moyo. Il est tellement psychédélique qu'il accueille même dans ses rangs un joueur de sitar. Il y a dans sa musique, vous l'avez entendu, une fraîcheur pleine de délicatesse. Et sur les photos, on voit les quatre membres du groupe, une bande de doux chevelus, assis parmi les herbes hautes. Voici à présent un groupe qu'il est difficile de ne pas évoquer, je m'en aperçois, si on veut mettre en lumière quelques-unes des expressions les plus intéressantes du psychédélisme en ce début de 21e siècle. Il y a un peu plus de 20 ans, est né à Liverpool, une ville où ce mouvement s'est vraiment épanoui, qu'on pense à des groupes mémorables comme les Pale Fountains ou plus près de nous, The Coral, un groupe qui s'est illustré par une approche très originale. Il s'appelle Clinic, comme une clinique. D'ailleurs, ses quatre membres portent des combinaisons et des masques chirurgicaux sur scène. On n'a jamais vu leur visage. Et Adrian, dit Aid Blackburn, et ses camarades se sont inspirés d'un légendaire groupe californien de la région de San Francisco, d'inspiration surréaliste, les Residents, dont personne, à part leurs proches, là encore, n'a jamais pu voir le visage. Musicalement, la vision du psychédélisme des membres de Clinic s'aventure plutôt vers le versant sombre et inquiétant de ce mouvement. Bah oui, quand on part du côté des rêves, il arrive vite qu'on se retrouve à enfourcher des cauchemars susceptibles de vous entraîner je ne sais où. Comme certains groupes, je pense à l'allemand Can qui a inspiré tant de parcours singuliers dans la musique, en grande partie du côté du rock post-punk et de la musique dite industrielle. D'ailleurs, étrangement, le timbre nasillard et la scansion nerveuse du chanteur de Clinic, Aid Blackburn, sont plus proches de ces courants là que je viens d'évoquer que du psychédélisme tel qu'on peut se l'imaginer de façon un peu banale et conventionnelle. Alors sur scène, les membres de Clinic, donc en masque et tenue chirurgicale, comme je vous l'ai dit, échangent leurs instruments, dont d'ailleurs ils déforment le son. Enfin, ça donne un côté à la fois farfelu et inquiétant. Ferry Boat of the Mind, c'est un titre extrait du dernier album en date du groupe qui s'appelle Wheel Tappers and Shunters. Alors c'est marrant, je ne savais pas ce que ça voulait dire, je suis allé voir. Les Wheel Tappers, c'était ces employés des chemins de fer britanniques chargés de donner de petits coups de marteau sur les roues des locomotives pour déceler d'éventuelles fissures. Et les Shunters, eh bien c'était les aiguilleurs, mais en fait c'était une émission de variété qui s'appelait comme ça The Wheel Tappers and Shunters Social Club. C'était à la télévision britannique la seconde moitié des années 70, et c'était en fait une émission de variété qui était un peu mise en scène avec des comédiens. Voilà, tout ça c'est marrant, mais enfin c'est pas essentiel. Clinic ce soir dans un Very Good Trip très psychédélique sur France Inter.
Time. Very Good Trip sur France Inter.
Thank you.
Fever Night, nuit de fièvre, une fièvre psychédélique d'un genre plutôt doux, comme celle qui peut vous alanguir un soir d'été sur une plage. Vous avez peut-être bu quelques verres de trop, à la façon d'une chaleur faisant naître de douces hallucinations. Celles entraînées par la musique d'un duo mixte, homme et femme, au nom bien trouvé, Moon Duo. Le guitariste Eric Ripley Johnson est connu des amateurs de rock psychédélique planant pour le groupe qu'il a formé à San Francisco dans les années 2000, Wooden Ships, hein, presque comme la célèbre chanson interprétée à la fois par Jefferson Airplane et Crosby, Stills, Nash & Young, sauf que lui, il écrit le nom de son groupe en ajoutant un J entre le SH de Ships et le I. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Désormais basé à Portland, à la ville très musicale de l'état de l'Oregon, Ripley, dont la barbe est désormais toute blanche, anime parallèlement un duo avec son ami Sanae Yamada. Ils chantent tous les deux. Et Moon Duo se situe à un point d'équilibre entre deux courants du psychédélisme auquel il arrive en fait de se rejoindre parfois. L'un, serein, berçant, planant, hein, comme on disait, diffuse de bonnes vibrations. C'est une sorte de rock'n'roll qui vous fait taper du pied alors que vous rêvassez, et où les saturations de guitare électrique peuvent cohabiter avec des sons acoustiques graciles. Ça, c'est plutôt Wooden Ships. Et puis, l'autre courant, plus hypnotique, comme on dit, répétitif, un peu comme aérien, où l'électronique est plus présente. Alors lui, ça vous enveloppe plutôt de manière invisible, comme une douce fumée d'encens, enfin, ou d'autres choses d'ailleurs. Et Moon Duo, c'est plutôt là, ce qu'on hypothèse, si j'ose dire. Pour son nouvel album, Stars Are the Light, eh bien, le duo a fait appel à une légende du néo-psychédélisme anglais, Pete Camber, alias Sonic Boom, avec lequel le duo a enregistré une dizaine de jours au cœur des magnifiques paysages de Sintra au Portugal. Sonic Boom, c'est une légende, il est tombé très jeune dans les drogues hallucinogènes. Il a fondé au début des années 80, il y a bien longtemps, le groupe Spaceman 3, qui en plein âge de l'après-punk, du funk, de l'électropop, a anticipé dans le Royaume-Uni d'alors cette résurgence du rock psychédélique qui a ouvert la voie, sans doute inconsciemment, à des groupes comme The Jesus and Mary Chain, Primal Scream ou même Oasis. Sonic Boom a entraîné Moon Duo vers des sons plus fluides, presque funky, tout en conservant ce côté flottant propre à l'électro-rock cosmique allemand dont Ripley Johnson, Wooden Ships. Là aussi, un duo homme et femme, Josephine Hearn et Fredrik Jolson, ils se font appeler Josephine Hearn and the Liberation. Ils se sont rencontrés à Stockholm où Josephine étudiait les arts visuels avant de se tourner vers le son. Quant à Fredrik, lui, il venait du nord, du côté de la frontière norvégienne, où le climat et les gens aussi, paraît-il, sont plus rudes. Enfin, ils vivent et travaillent depuis quelques années à Londres. Tout de suite, un musicien qui, malgré son âge pas très avancé, 31 ans, est déjà une sorte de légende vivante. Il s'agit du néerlandais Jaco Gardner. Il avait 25 ans quand il a publié en 2013 un album de folk psychédélique au son désuet qui s'appelait Cabinet of Curiosities. Multi-instrumentiste, hein, il aime travailler tout seul chez lui depuis l'âge de 14 ans. Gardner a cette aura particulière propre aux solitaires qui réalisent leur musique dans une sorte d'autarcie qui peut fasciner. Dans son dernier album en date, paru en 2018, qui s'appelle Somnium, où il ne chante pas, Jaco Gardner se révèle comme un excellent artisan du son, capable de faire émerger, grâce à sa musique, de véritables paysages visuels.
Thank you.
Vertigo Trip sur France Inter.
Buried. Flowers grew from his toes. The mountain and sky told the story of how he held back the avalanche snow.
And the king saves the day.
And the king saves the day.
But the king dies today.
Thank you.
Now the trees are rushing by like a flash from other lands, and the Lord slipped away, left me with a gold and a pot of sand. A tunnel has turned the air so bland, can't believe I've been done, never like the darkest hour. When the gold takes my hand, I can feel his skin is a lot like mine. Yeah.
Judgment Train, un bizarre blues psychédélique un peu jazzy, signé Rustin Man, c'est l'alias de Paul Webb. Paul Webb qui fut dans les années 80 le bassiste et co-auteur de plusieurs chansons du groupe anglais Talk Talk, hein, du regretté Mark Hollis. Il avait déjà utilisé cet alias pour signer au début des années 2000 un album en duo avec Beth Gibbons, hein, la chanteuse de Portishead. Alors, c'est pas courant, Paul Webb a mis pas moins de 15 ans pour assembler au fil du temps un album de sa conception dans la grange de sa ferme de l'Essex, à l'est de Londres. Alors pourquoi il a été autant retardé? Ben, il y avait ses obligations parentales, le bruit de l'aéroport avoisinant, ça compte évidemment, des contraintes, des interruptions. Mais enfin voilà, et Paul Webb est arrivé à publier en 2019 un très bel album sous le nom de Rustin Man. Il s'appelle Drift Code, un album qui est sorti discrètement, mais les connaisseurs l'ont remarqué, et il y a quelque chose en lui qui peut évoquer la mélancolie pastorale, vraiment d'un des monuments de l'excentricité britannique, j'ai nommé Robert Wyatt. Alors juste avant, un drôle de folk psychédélique électro-acoustique comme désaxé au rythme un peu bancal. La chanson s'appelait All for the Life of the City. C'est un titre qui est extrait du dernier album des Flaming Lips qui s'appelle King's Mouth. Un groupe américain, les Flaming Lips, originaire du sud profond des États-Unis, en l'occurrence une banlieue de Oklahoma City. C'est un groupe qui a eu son heure de gloire dans les années 90 et 2000. Leurs concerts étaient une fête. Ils apparaissaient costumés, parfois coiffés de perruques fluo, utilisaient des trucs de spectacle pour enfants, des machines à faire des bulles, à souffler des confettis, lancer des ballons, tout ça. Et ça faisait une sorte de contrepoint joyeux à la douleur qui, vous l'avez entendu, traverse souvent la voix du chanteur des Flaming Lips, Wayne Coyne. À présent, tendez l'oreille, parce que ce que vous allez entendre est rare, en tout cas différent. C'était il y a 2 ans et demi, je vous avais présenté un musicien anglais inclassable, comme on dit, du nom de Richard Dawson. Alors, inclassable, c'est pas qu'une question de genre musical. Richard Dawson, qui a une trentaine d'années et vient du nord de l'Angleterre, est un de ces musiciens qui, comme le regretté Daniel Johnston, souffre d'une forme de handicap. On pourrait plutôt dire d'inadaptation. Il a expliqué dans plusieurs interviews que sa perception très particulière de la musique lui vient en partie d'une infirmité visuelle congénitale qui porte un nom barbare, le rétinoschisis juvénile lié à l'X. Voilà, j'ai pas la moindre idée de ce que ça désigne, mais enfin, c'est le nom. En tout cas, lui, il voit flou et bizarre, et entend bizarre aussi. Ça va, paraît-il, ensemble. Il a expliqué il y a quelques années que grâce aux aides que son infirmité lui permet de recevoir, eh bien, Richard Dawson peut consacrer presque tout son temps à la musique. Il a passé beaucoup de temps dans les musées, les bibliothèques, les discothèques et centres d'archives de sa région autour de Newcastle. Ça lui a permis de découvrir des tas de choses différentes. La musique du guitariste malien Ali Farka Touré, des disques de métal expérimental aussi, et plein d'histoires sur le passé reculé de sa région. Richard Dawson, qui a fait ses débuts dans le jazz expérimental, n'aime pas trop qu'on dise que sa musique se résume au folk, même s'il assemble dedans des éléments folkloriques, parce qu'il s'intéresse à plein de choses, la spiritualité soufie. Et puis, les sujets de ses chansons sont extrêmement variés. Ce sont des souvenirs personnels, des objets de la vie quotidienne, l'histoire lointaine de son pays, et aussi ses vues politiques. Enfin, il en a. Tout ça se combine dans une spontanéité poétique qui peut déconcerter. Alors, il y a certainement des gens qui vont rester à la porte par ses dissonances, ses collages biscornus, mais ça donne aussi l'impression rare que Richard Dawson entend dans sa tête des choses qu'il est absolument le seul à percevoir. Et je suis sûr que beaucoup percevront des échos de Robert Wyatt dans ce titre que je vous propose de Richard Dawson qui s'appelle Dead Dog in an Alleyway, qui est extrait de son tout nouvel album qui s'appelle, comme l'année qui vient de commencer, 2020.
Dead dog in an alleyway, dusted with snow, on a bed of burst bin bags, underneath the big fans, behind the Premier Inn, and for your eyes only, no fit place to spend the night. Maybe I can go in the pedestrian tunnel, statues and football picks. They give me the most shit. Disgusting animal. Ah. Over there in the labyrinth of Leon, you can hear the voices lift through the icy. Hell.